Bon, je vous remercie pour votre invitation. Je remercie Karine et j'étais très heureuse de retrouver Karine, maître de conférence, puisqu'effectivement, j'ai rencontré Karine en tant que membre du jury de sa thèse, donc dans d'autres conditions. Voilà, donc j'ai été présentée. Nous sommes Jean-Écal et moi-même chercheurs dans un laboratoire de sciences cognitives et nous développons des travaux en psychologie cognitive expérimentale. Nous sommes des expérimentalistes. Et effectivement, nous travaillons dans le domaine de l'apprentissage de la lecture. On a largement pris part aux travaux sur l'apprentissage de la lecture et aux débats qui ont eu lieu récemment. Voilà, donc nos noms sont plus assez connus dans ce domaine, j'espère pour de bonnes raisons. Donc, on va essayer de vous présenter à la demande donc des personnes responsables. Le point sur les travaux récents dans le domaine de l'approche cognitive de l'apprentissage de la lecture. On va vous parler, on va essayer de vous présenter la complexité des choses finalement. On va essayer de vous montrer que apprendre à lire, c'est extrêmement difficile. Ça fait intervenir de nombreux facteurs. On va vous dire les points où la recherche peut donner quelques résultats définitifs, les points de discussion. Et puis surtout, nous ne sommes pas pédagogues, comme Karine l'a rappelé, donc ce que l'on va vous présenter, c'est un point de vue de chercheur. Et également, à la demande des intervenants, on va vous parler, c'est Jean-Écal qui le fera à la fin, du rôle de l'environnement. Donc, pour commencer rapidement, lorsqu'on parle de la lecture, généralement, on sous-entend deux grandes composantes. Parce qu'apprendre à lire, bien sûr, c'est être capable de comprendre un texte. La finalité de la lecture, c'est la compréhension d'un texte écrit. Cela dit, au moment de l'acte de lire, deux grandes composantes cognitives sont activées et on a l'habitude de définir la lecture de la façon suivante, sous la forme d'équation. C'est une position très ancienne, vous le voyez ici, 1985. On définit la lecture comme l'activation de deux grandes composantes, la reconnaissance des mots, l'identification de mots écrits et la compréhension orale, sémantique et syntaxique. Donc si la lecture, si lire un texte, c'est bien dans un but de compréhension de ce texte, il existe un processus qui est spécifique à la lecture, qui est l'identification de mots écrits. Pour pouvoir comprendre un texte, il faut d'abord identifier de façon automatique les mots écrits. L'identification de mots écrits, c'est une activité qui est spécifique à la lecture, qui est entièrement automatisée chez le lecteur expert. Chez l'enfant, cette activité n'est pas automatisée et donc l'objectif de l'apprentissage de la lecture, c'est de rendre automatique l'identification de mots écrits afin que, si l'identification de mots écrits est un processus qui est automatique, qui est entièrement automatisé, il n'y a pas de surcharge cognitive et au moment de la lecture et donc le lecteur, il est engagé dans un processus de compréhension de texte. Donc pour bien comprendre un texte, il faut activer de façon automatique des mots écrits. C'est l'enjeu de l'apprentissage de la lecture. Donc, deux facteurs qui sont différents, dans la mesure où la compréhension de l'écrit, elle nécessite des capacités que l'on va trouver uniquement impliquées dans la lecture, c'est l'identification de mots, et des capacités qui sont plus générales, des capacités cognitives qui vont intervenir dans d'autres domaines que la lecture. Pour illustrer rapidement l'intervention de ces deux composantes, lorsqu'on regarde ce qui se passe chez des enfants en difficulté de lecture, finalement, les difficultés de lecture, elles peuvent être liées au dysfonctionnement de l'une ou l'autre des composantes ou des deux. Donc, lorsque l'on veut essayer de repérer les difficultés en lecture d'un enfant, on va essayer de regarder la composante qui est déficitaire, qui dysfonctionne. Une petite remarque également, lorsqu'on va tenter de repérer des difficultés en lecture, on va essayer de distinguer ce qui relève de difficultés, de retard de la lecture, de ce qui relève d'un trouble, ce qui n'est pas la même chose. Un trouble de la lecture, comme la dyslexie ou un trouble plus rare qu'est l'hyperlexie, c'est une pathologie. Un retard de lecture, ce n'est pas une pathologie. Ce sont deux fonctionnements différents. Il faut se garder de confondre ce qui relève d'un retard, d'une difficulté de lecture qui peut être due à différents facteurs, de ce qui relève de la pathologie pour lequel on a déjà un ensemble de connaissances. Alors donc, pour apprendre à lire, il faut être capable d'identifier des mots écrits. Ça, c'est la condition nécessaire à la lecture. Si on n'identifie pas le mot écrit, c'est souvent le problème du dyslexique. Le dyslexique, il a un problème d'activation automatique de cette identification du mot écrit. Si on n'identifie pas les mots écrits, on ne va pas bien lire et on va avoir des difficultés de compréhension. Donc cette capacité d'identification de mots écrits, elle va être responsable d'une bonne compréhension en lecture, mais ces conditions, elles sont absolument nécessaires pour apprendre à lire, mais elles ne sont pas suffisantes. On va voir qu'il y a encore d'autres composantes et d'autres capacités, d'autres connaissances qui vont entrer en jeu dans l'apprentissage de la lecture. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite à l'introduction, c'est un mécanisme qui est extrêmement complexe, et c'est un mécanisme, on va essayer de vous le montrer, c'est un peu l'objet de l'intervention, qui ne s'acquiert pas au CP, au moment où l'enfant commence l'apprentissage formel de la lecture. Bien avant, l'enfant va développer des connaissances qui sont tout aussi nécessaires à l'apprentissage de la lecture. Alors, pour commencer, je vais faire un petit détour par les travaux en neurosciences. Aujourd'hui, on commence à connaître un certain nombre d'éléments concernant les bases neurales d'identification de mots. Donc, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, on a des informations sur ce qui se passe au moment de la lecture. Ce que l'on sait aujourd'hui, ce sont des travaux qui sont déjà anciens, c'est qu'au cours, l'apprentissage de la lecture va modifier l'organisation fonctionnelle cérébrale. Si vous regardez l'exemple qui est ici, vous voyez dans ce travail qui est tout à fait intéressant, une activité cérébrale au cours d'une tâche de répétition de pseudomots par deux types d'adultes. Là, on est chez les adultes, des adultes qui sont lecteurs, ci-dessus. C'est l'image du dessus, des adultes qui sont analphabètes, et vous voyez des activations différentes, et notamment les aires spécifiques qui sont dédiées au langage ne sont pas activées chez les adultes analphabètes. Donc ce que l'on sait aujourd'hui de façon assez claire, vous voyez que c'est des travaux qui sont déjà anciens pour des travaux de ce type-là, l'apprentissage de la lecture modifie l'organisation du cerveau. Alors, quelques apports récents, on sait aujourd'hui bien identifier une aire qui est spécifique au traitement des configurations orthographiques, c'est-à-dire au traitement du mot. Lorsque l'on identifie un mot écrit, je vous ai parlé d'identification de mots écrits, c'est la composante spécifique de la lecture. Lorsqu'on identifie un mot écrit, il y a une aire spécifique qui va être activée. Cette aire spécifique, c'est la portion médiane du gyrus fusiforme gauche. Il y a de nombreux travaux qui l'ont montré. J'ai mis en référence un travail connu d'une équipe française de notre collègue Stanislas Dehaene, qui est bien connue dans le domaine. Cette aire, elle est activée 180 à 200 millisecondes après le début de la présentation d'un mot ou d'un pseudo-mot. C'est-à-dire que si l'on présente sur écran un mot écrit ou un pseudo-mot écrit, mais pas une séquence illisible de consonnes, c'est-à-dire pas un nom-mot, si l'on présente donc un item prononçable, que ce soit un mot ou un pseudo-mot, cette aire spécifique du traitement des configurations orthographiques est immédiatement activé. Et ce que l'on remarque, c'est que cette aire, elle n'est pas observée, l'activation de cette aire, n'est pas observée chez des enfants de CE1, mais on va l'observer chez des enfants de CM2 qui donc ont acquis l'apprentissage de la lecture. C'est juste pour vous montrer que l'apprentissage de la lecture va modifier notre fonctionnement cérébral. Alors cette aire du gyrus fusiforme gauche, elle est réservée au traitement des stimuli visuels et elle ne va pas répondre si on présente les mêmes stimuli, des mots ou des pseudomots, à l'oral. Si on fait une présentation auditive, on n'a pas de réponse similaire à une présentation visuelle. De la même façon, on ne va pas trouver l'activation de cet R si, au lieu de mettre des lettres, on présente aux participants des pseudo-lettres de ce type-là. En revanche, les modifications physiques des mots n'ont aucune influence sur l'activation. Si l'on présente le mot table écrit en minuscule, en majuscule ou en alternant, on va retrouver l'activation de cet R. Donc, il s'agit bien d'une activation particulière aux mots, c'est-à-dire à une représentation abstraite qui comporte donc un ensemble de lettres prononçables. Alors là, par ailleurs, je vais passer rapidement là-dessus, l'activation de cet R, elle a lieu même lorsque le sujet n'est pas conscient qu'on lui présente un mot écrit ou un pseudo-mot écrit. Si on effectue des présentations de mots avec des techniques de masquage, c'est-à-dire des présentations qui sont extrêmement rapides, mais peut-être que François Xavier en a parlé hier, des techniques de masquage.
Non, c'est moi qui en parlerai.
C'est vous, d'accord.
Avec le logiciel subliminal.
D'accord. Donc les techniques de masquage, donc vous allez découvrir cette technique. On peut présenter des mots et le sujet n'a pas conscience qu'il lit des mots. Donc c'est pour illustrer une autre idée que j'ai présentée très généralement au tout début. L'activation, elle est totalement automatique et elle est inconsciente. Alors, ce développement de la représentation des propriétés structurelles des mots écrits, ce que l'on pourrait appeler des séquences de lettres acceptables dans notre langue, donc ici en français, ce développement dans cette ère du gyrus fusiforme, elle est associée à l'habileté du langage, à l'habileté de la lecture. On ne va pas trouver l'activation de cette ère chez des jeunes enfants qui sont en cours d'apprentissage, mais on va l'observer à partir du CM2. Donc, elle est tout à fait liée, l'activation de cet R est tout à fait liée à la progression des capacités en lecture de l'enfant. Ce que la recherche a montré, c'est également une différence d'amplitude de cette activation. L'amplitude de l'activation est corrélée de façon positive avec les performances à des épreuves de décodage graphème-phonème, c'est-à-dire avec de la lecture de pseudo-mots. Alors la lecture de pseudo-mots, je vais y revenir souvent, parce que la lecture de pseudo-mots, les chercheurs l'utilisent beaucoup pour étudier les procédures d'identification de mots, parce que lorsque l'on présente des pseudo-mots, nécessairement, on doit mettre en place un mécanisme de correspondance graphophonologique qui est le mécanisme à la base de la lecture. Donc j'y reviendrai là-dessus. Et encore plus démonstratif, ce que la recherche a montré, c'est que un entraînement de cette habileté à décoder des mots, l'entraînement de l'habileté de décodage avec des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage est associé à des modifications dans cet R dont on vient de parler, dans l'activation du gyrus fusiforme gauche. En conclusion, ce que l'on peut dire, je me suis appuyée sur ces travaux pour illustrer l'idée que la lecture est servie par un ensemble de processus mentaux qui sont spécifiques, qui sont automatiques et qui sont inconscients. Mais ce système, il va s'installer progressivement. Ce système va s'installer progressivement au cours de l'apprentissage de la lecture sur la base de l'utilisation du décodage graphophonologique qui, lui, est un mécanisme conscient, intentionnel et contrôlé. Alors je vais dire quelques mots, parce qu'aujourd'hui, un apport important des neurosciences, c'est ce que l'on a pu montrer en termes de plasticité cérébrale. Ce que l'on peut montrer aujourd'hui, c'est que des entraînements spécifiques vont modifier l'activation de supports neuroanatomiques dédiés à la lecture. Donc ce sont des travaux qui sont tout à fait intéressants, tout à fait prometteurs, qui permettre de montrer finalement peut-être aux enseignants qu'il est toujours utile d'entraîner des enfants, d'aider des enfants, même des enfants avec des pathologies importantes, parce que ce phénomène de plasticité cérébrale, on peut le mettre en évidence et on peut donc modifier les activations des aires corticales après entraînement. Je vais juste présenter un petit exemple. Il y a de nombreuses recherches sur ce thème. Donc la question que l'on peut se poser, que l'on se pose lorsqu'on va regarder les différences d'activation avant et après un entraînement, c'est est-ce qu'il y a une réponse, est-ce qu'on peut le présenter comme ça, est-ce qu'on peut parler d'une réponse neurale à une rééducation? Autrement dit, est-ce que les patterns d'activation changent après une rééducation? Je vais illustrer cette idée par une expérience réalisée en 2002 auprès de 8 enfants dyslexiques sévères. Donc, les dyslexiques sévères sont des enfants qui ont une pathologie bien identifiée. Ils ont un trouble spécifique de l'identification du mot écrit avec une intelligence normale, une scolarisation normale. Ils ont un trouble de l'écrit. On va les entraîner, ces enfants. On va les rééduquer, vous voyez, 2 heures par jour. 80 heures d'instruction, juste pour illustrer l'idée de sujet. Vous voyez chez ce premier patient, vous voyez avant, donc dans la partie supérieure de la diapo, les activations des aires avant l'entraînement, hémisphère droit, hémisphère gauche, après entraînement. Alors regardez par exemple si on prend cet enfant, vous voyez qu'après entraînement, vous voyez une activation beaucoup plus importante de cette aire, sans entrer dans les détails, c'est une aire qui est impliquée, hein, on est au niveau de la zone périsylvienne, voilà, ici, et vous voyez une activation importante de cette aire qu'on ne voyait pas avant entraînement. On retrouve la même chose chez un autre enfant, sujet 2, avant, après entraînement, là encore, vous voyez des patterns d'activation qui sont différents, et donc aujourd'hui, ce que l'on est capable de mettre en évidence, c'est des modifications corticales de ce type-là, avant, après entraînement. Donc si on continue, un autre sujet 3, on retrouve, si vous regardez, surtout au niveau de l'hémisphère gauche, vous voyez des modifications importantes, même chose c'est ce sujet, avant, après entraînement. Donc des résultats qui sont tout à fait intéressants et qui nous permettent d'insister en tant que chercheur et en tant que chercheur dans les domaines plutôt du comportement, c'est l'intérêt d'entraîner des enfants qui présentent, de proposer des entraînements spécifiques à des enfants qui présentent des difficultés spécifiques d'apprentissage de la lecture. Alors cela dit, après vous avoir montré ces beaux résultats, je voudrais quand même préciser une chose importante que je ne suis pas la seule à dire, c'est que finalement, malgré ces travaux tout à fait intéressants et tout à fait prometteurs, aujourd'hui, les recherches en neurosciences, les recherches en sciences cognitives, qui est le domaine dans lequel je travaille, n'ont pas d'application directe pour l'éducation. Je vais reprendre une citation de mon collègue Stanislas Dehaene, citation qu'il a proposée il n'y a pas très longtemps, en 2006, au Collège de France, en décembre 2006, au ministre, à notre ministre, où il a bien précisé que malgré une certaine fascination pour la neuroimagerie, ses conclusions aujourd'hui sont fragmentaires et son utilité pratique est limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore assez d'éléments pour pouvoir espérer des applications directes, immédiates, dans le domaine de la pédagogie. Cela dit, je crois qu'il est tout à fait intéressant que les formateurs soient informés de ce type de recherche. Pardon. Alors, la neuropédagogie qui est chère à notre collègue Olivier Houdet, c'est bien sûr peut-être un espoir pour les années à venir, il le dit lui-même, mais pour l'instant, c'est une discipline qui resterait éventuellement à développer dans les années qui suivent. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tirer de conclusion directe de l'ensemble de ces travaux. Alors, on vient de voir les aspects corticaux impliqués dans l'apprentissage de la lecture. C'était pour vous montrer cette activation qui est tout à fait automatique, qui est inconsciente de la... au cours de l'apprentissage de la lecture. Mais je vous ai dit également que l'apprentissage de la lecture, c'est aussi un processus qui se met en place de façon lente chez l'enfant. Apprendre à lire, c'est d'abord apprendre à décoder des mots. Et le décodage chez l'enfant, il n'est pas automatique. L'objet de l'enseignement, c'est de le rendre justement automatique. L'objectif de l'apprentissage de la lecture, c'est de faire passer l'enfant de novice au statut de lecteur expert, c'est-à-dire d'un individu qui va activer automatiquement les mots écrits. Alors, au cours de l'apprentissage, que va-t-il se passer? Au cours de l'apprentissage de la lecture, le décodage sur la base d'une relation lettre-son va peu à peu céder la place à un décodage qui va être plus efficace, qui va s'effectuer sur de la correspondance entre des unités pertinentes, c'est-à-dire des unités graphème-phonème, et des unités plus larges, comme par exemple la syllabe en français. Donc un décodage graphosyllabique. Donc on va voir que ce décodage, qui est nécessaire pour activer des mots écrits, pour identifier des mots écrits, il va évoluer au cours de l'apprentissage. Donc la condition de base de l'apprentissage du décodage graphophonologique, c'est la compréhension du principe alphabétique. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'un enfant n'a pas compris le principe alphabétique, il ne peut pas apprendre à lire. Pour apprendre à lire, il faut maîtriser le principe alphabétique. Il faut comprendre ce principe qui régit les langues alphabétiques, et donc le français. C'est la condition de base, et ça va être l'enjeu de l'apprentissage de la lecture. La compréhension du principe alphabétique, je vais essayer de vous montrer en quoi c'est difficile. Et je vais insister sur la difficulté de la compréhension du principe alphabétique. C'est difficile parce que ça implique la prise de conscience des phonèmes. Parce que le principe alphabétique, en français, il est graphophonémique. Alors, il y a de grandes difficultés dans la découverte du principe alphabétique. C'est la raison pour laquelle, pour certains enfants, ça pose des difficultés. La première difficulté, c'est la nature abstraite des phonèmes. Et la deuxième difficulté, c'est le code orthographique. Le code orthographique, c'est le fait que le même graphème, par exemple le S en français, ne correspond pas toujours au même phonème en français. Le graphème S peut être retranscrit, ne correspond pas au même phonème, si on prend bise, mi ou ans. Inversement, le même phonème ne se réalise pas toujours avec le même graphème. O va se transcrire de différentes façons. Donc deux difficultés importantes. L'enfant va être confronté au moment de l'apprentissage de la lecture à ces deux difficultés, la nature abstraite des phonèmes et le code orthographique. Alors sans connaître le principe alphabétique, on ne peut pas lire. On ne peut pas lire, c'est-à-dire on ne peut pas retrouver la forme phonologique du mot. Parce que lire, même si on n'en a pas conscience quand on est lecteur expert, parce que je l'ai dit, le processus est totalement automatisé, lorsque l'on lit, on retrouve la forme phonologique du mot, de façon tout à fait automatique. Si on ne connaît pas le principe alphabétique, on ne peut pas lire. Et notamment, on ne peut pas lire. Même un lecteur expert, s'il ne connaît pas le principe alphabétique, il ne peut pas lire et il ne pourra jamais déchiffrer, décoder des mots qu'il n'a jamais rencontrés, des mots inconnus ou donc des pseudomots. Cela, même si les mots rares sont dans un contexte très clair, sauf dans des cas très particuliers où on peut faire du devinement et on a de la chance sur le devinement, ce qui est un cas très particulier. Aujourd'hui, il y a un consensus de la part des chercheurs impliqués dans le domaine. Si on ne connaît pas le principe alphabétique, on ne peut pas retrouver la forme phonologique du mot, donc on ne peut pas lire. Et pour découvrir ce principe alphabétique, une simple exposition au matériel écrit, ce que l'on appelle parfois le bain dans l'écrit, ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour découvrir le principe alphabétique, parce que le principe alphabétique, il ne va pas émerger spontanément, il doit être appris. Il relève d'un apprentissage. Il doit être nécessairement appris de façon explicite. ça va me conduire maintenant à distinguer deux formes d'apprentissage qui vont entrer en jeu dans l'apprentissage de la lecture, les apprentissages implicites et les apprentissages explicites. Parce que rappelez-vous que je vous ai dit au début, le décodage est absolument nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Alors la raison essentielle de la difficulté, j'ai évoqué tout à l'heure la difficulté de maîtriser les phonèmes, la raison essentielle de cette difficulté, c'est que le phonème, ce n'est pas un son, hormis les phonèmes vocaliques. Qu'est-ce qu'un phonème ? Rapidement, je vous le rappelle, un phonème, c'est une unité linguistique abstraite, c'est une unité formelle de description de la langue, c'est la plus petite unité distinctive de la langue. C'est-à-dire que si on commute deux phonèmes, on obtient une différence de sens. Par exemple, dans le mot « chapeau », si je modifie le phonème « p », « château, bateau », il suffit de la modification d'un seul phonème pour obtenir une modification de sens. Cela dit, le phonème, c'est une unité qui est très difficilement accessible à la conscience pour des raisons de co-articulation. Si pour le mot calcul, par exemple, le mot calcul, on va le prononcer calcul et non, je serais incapable de prononcer le mot calcul que à U. Je ne peux pas le faire, c'est impossible. Parce que pour prononcer le phonème, j'ai toujours besoin d'une voyelle, même si elle a une faible valeur acoustique. Le phonème, c'est une unité abstraite. Je ne peux pas le prononcer pour des raisons de co-articulation. Pour percevoir les phonèmes, notre système perceptif doit faire, entre guillemets, des calculs mathématiques qui sont très complexes. Il y a de nombreux travaux qui vont porter sur la perception de la parole et sur le traitement phonémique. Ce sont des travaux qui sont conduits dans d'autres domaines de recherche. Notre système perceptif donc, va faire des calculs complexes pour identifier les phonèmes dans le courant acoustique. Mais nous n'avons pas conscience de ces calculs, ni de leurs résultats. Comment expliquer alors que nous avons l'habitude de dire que nous entendons des phonèmes ? En fait, nous n'entendons pas des phonèmes. Nous n'entendons pas des phonèmes, mais l'apprentissage du système alphabétique de représentation du langage nous permet de développer des représentations conscientes des phonèmes. Et lorsque l'on a une représentation consciente du phonème, on a l'impression d'entendre les phonèmes et on est capable d'effectuer une analyse phonémique, de repérer des phonèmes dans un mot. Mais parce qu'on en a construit une représentation consciente et non pas parce que l'on entend explicitement les phonèmes. Donc ça, c'est la première difficulté de l'apprentissage de la lecture. La deuxième difficulté, je l'ai évoqué, c'est le code alphabétique. Le principe alphabétique, il est commun à toutes les langues qui s'écrivent au moyen d'un alphabet. Toutes les langues alphabétiques vont donc vont être régies par un principe alphabétique. Donc on va dire que tous les enfants qui apprennent à lire dans une langue alphabétique rencontrent cette difficulté qui est la maîtrise de ce principe alphabétique. S'ajoute à cela une difficulté autre, mais qui va être différente en fonction de la langue, une difficulté qui est liée au code orthographique, et le code orthographique, lui, il est spécifique à une langue particulière. Il y a des langues qui vont être plus, on va dire, plus transparentes, pour lesquelles on va pouvoir apprendre plus facilement le code orthographique que d'autres. L'anglais, c'est une langue qui est plus difficile que le français. Et l'italien, c'est une langue plus facile que le français. Le code orthographique, la transparence orthographique est plus importante en italien qu'en français, et en français qu'en anglais. Donc l'enfant, il va devoir apprendre le principe alphabétique et le code orthographique. Il faut bien distinguer ces deux points, parce que le principe alphabétique, donc, est partagé par toutes les langues alphabétiques, le code orthographique est particulier à une langue. Donc on va pouvoir, concernant la recherche, on va pouvoir généraliser des travaux concernant l'apprentissage du principe alphabétique à l'ensemble des langues alphabétiques. Si on s'intéresse au code orthographique, on ne peut pas généraliser l'ensemble des travaux. On va devoir tenir compte de la spécificité de la langue. Alors, le code orthographique, qu'est-ce que c'est ? Le code orthographique, c'est l'ensemble des correspondances graphème-phonème qui sont pertinentes pour la lecture et phonème-graphème qui sont pertinentes pour l'écriture dans une langue particulière. Ces correspondances graphème-phonème, phonème-graphème, ces correspondances, elles peuvent être décrites par un système de règles, ce que l'on va appeler les règles de correspondance graphème-phonème, mais malheureusement, suivant les langues, il y a plus ou moins d'exceptions à ces règles, et en français, il y a un nombre assez important d'exceptions à ces lettres, ce qui constitue une difficulté importante pour les enfants qui vont apprendre à lire. Donc, en résumé, selon le principe alphabétique, les mots écrits sont composés de lettres qui marquent les unités linguistiques et qui permettent de différencier les mots oraux. Si on arrive à distinguer des mots oraux, c'est grâce au principe alphabétique, donc grâce à la distinction entre phonèmes. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, la maîtrise de ce principe est nécessaire. Il doit être enseigné, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour manipuler les mots écrits, aussi bien en lecture qu'en écriture. Pourquoi ce n'est pas... On va voir maintenant ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est difficile et pourquoi ça ne suffit pas? Parce que la capacité de lecture demande la compréhension de ce principe. Mais la capacité de lecture demande aussi la capacité d'identifier des lettres, la capacité d'identifier les phonèmes au sein des mots oraux et la capacité d'appliquer les règles de correspondance entre graphèmes et phonèmes. Donc l'enfant qui va apprendre à lire, il est confronté à un ensemble de difficultés, qui sont celles-ci. Alors la compréhension du principe alphabétique, elle va démarrer très tôt et elle va démarrer bien avant l'apprentissage formel de la lecture. Ce n'est pas au CP que l'on découvre pour la première fois le principe alphabétique. Il serait totalement erroné de penser que c'est au CP que l'enfant apprend à lire. Au CP, l'enfant, il va apprendre des règles de correspondance, il va apprendre un code alphabétique, mais la compréhension du principe alphabétique, elle va démarrer avant, elle va démarrer sous l'effet d'apprentissage implicite cette fois. La compréhension du principe alphabétique, donc, se met en place progressivement au cours de la période préscolaire en France, donc. Ça correspond à l'école maternelle, par apprentissage implicite, des connaissances du nom des lettres, des connaissances phonologiques, des connaissances orthographiques et des connaissances morphologiques. On va passer maintenant rapidement en revue ces éléments. C'est-à-dire que avant l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage formel de la lecture avant d'entrer au CP, l'enfant a développé un ensemble de connaissances du nom des lettres, donc des connaissances alphabétiques, phonologiques, orthographiques et morphologiques, qui sont très importantes, qui sont essentielles pour qu'il puisse comprendre après le principe alphabétique, pour qu'on puisse lui apprendre de façon explicite le principe alphabétique. Donc l'importance de la connaissance du nom des lettres. Des travaux qui sont récents montrent aujourd'hui le rôle important de la connaissance des lettres, connaissance du nom des lettres, connaissance de la valeur phonémique des lettres. Et on a montré aujourd'hui que la connaissance du nom des lettres, c'est un bon prédicteur de la réussite future en lecture. Donc dès l'école maternelle, l'enfant apprend à identifier les lettres, leurs noms, leurs valeurs. La connaissance précoce de ces lettres est extrêmement importante, parce que c'est au cours des premiers contacts avec ces lettres que l'enfant va développer les premières connexions oral-écrit. Et le tout jeune enfant va essayer d'utiliser la connaissance qu'il possède du nom des lettres pour écrire des mots. De nombreux travaux, notamment de Rebecca Treiman, qui ont montré l'utilisation de ces connaissances sur les lettres pour écrire. Par exemple, l'enfant qui utilise les deux lettres qu'il connaît, Hervé, pour écrire le prénom Hervé. On voit là un premier reflet de la compréhension du principe alphabétique. C'est le tout début, de la compréhension du principe alphabétique. Donc un apprentissage implicite qui se met en place très tôt et qui est tout à fait fondamental. Autre connaissance implicite fondamentale, la littérature scientifique sur le domaine est très importante, c'est les habiletés phonologiques. Les habiletés phonologiques, c'est la capacité à repérer dans les mots oraux des segments qui correspondent aux lettres. C'est-à-dire que l'enfant, pour maîtriser plus tard le code graphophonologique, on l'a déjà dit, il doit être capable de repérer les phonèmes. Mais bien avant d'être capable de repérer des phonèmes, l'enfant est déjà capable d'opérer mentalement des opérations, de repérer mentalement, des unités phonologiques dans les mots. Cette capacité, en effet, ce que l'on a montré, ce que la recherche a montré, c'est cette capacité à repérer les phonèmes, elle s'appuie sur une sensibilité phonologique qui est très précoce, que l'on a appelée la capacité épiphonologique. Cette capacité épiphonologique, elle existe très tôt. Elle existe bien avant l'école primaire, elle existe dès l'école maternelle. L'enfant va être capable d'effectuer des opérations sur les mots, de repérer des unités phonologiques dans les mots. Ces connaissances, ce qu'on va appeler cette sensibilité phonologique ou cette capacité phonologique, elle est tout à fait fondamentale pour développer ultérieurement ce que l'on appelle une capacité métaphonologique qui va permettre à l'enfant de repérer les phonèmes. Le point des connaissances phonologiques en lecture est très important. De puissants liens bidirectionnels existent entre la capacité phonologique et la lecture. C'est-à-dire que la capacité phonologique est un bon prédicteur de la lecture, et la lecture, l'apprentissage de la lecture, va développer les habiletés phonologiques, notamment les habiletés phonémiques. Donc les habiletés phonologiques constituent un excellent prédicteur de la réussite en lecture. Il y a une littérature abondante sur le domaine. En conséquence, l'enseignement de la lecture ne doit pas démarrer au CP, mais bien avant, en stimulant le développement des habiletés phonologiques sur des unités phonologiques qui sont des unités qui peuvent être des unités syllabiques, des unités infrasyllabiques, par exemple. Alors, concernant les habiletés phonologiques, deux grands niveaux de traitement sont distingués suite aux travaux qui sont bien connus de Jean-Émile Gombert. Un traitement épiphonologique qui correspond à une manipulation non consciente d'unités phonologiques. Par exemple, l'enfant est capable de dire que dans balai et dans bateau, il entend la même chose. Ça sonne pareil. Si on lui donne des petites cartes, on lui dit de mettre ensemble ce qui sonne pareil, il est capable de repérer balai, bateau. Il manipule de façon non consciente des unités phonologiques. Ce sont des connaissances qui sont implicites. À côté de ces connaissances inconscientes, implicites, l'enfant effectue également un traitement métaphonologique sur le mot. À ce moment-là, il va devenir capable de manipuler de façon intentionnelle des unités phonologiques. Manipuler de façon intentionnelle des unités phonologiques, c'est être capable d'extraire des unités. C'est par exemple, si je lui dis bateau, balai, qu'est-ce qu'il y a de commun dans le mot ? Il est capable d'extraire l'unité, alors en l'occurrence l'unité syllabique, ba. Donc on va faire une distinction entre la capacité à être sensible à des différences phonologiques ou à des similitudes phonologiques et la capacité à les extraire, ces unités phonologiques. Ces deux types de capacités, deux modes de traitement différents, et ce sont deux capacités différentes. La sensibilité phonologique, qui est de nature implicite, et le traitement métaphonologique, où il y a une manipulation intentionnelle de l'unité phonologique. C'est une connaissance de nature explicite. C'est un continuum. Ça me permet bien d'essayer de vous montrer que l'apprentissage de la lecture, c'est un continuum qui démarre très tôt et qui se poursuit. Le développement des habiletés phonologiques, donc on va parler de continuum suite à des travaux anglo-saxons d'Anthony et Francis. Il dépend de deux variables. Le type d'unité traitée, ça peut être des unités larges, ce que l'on appelle des unités larges. Les unités larges, c'est par exemple la syllabe, ou des unités infrasyllabiques, ou la rime. Des unités réduites, c'est le phonème. Donc l'enfant, il va démarrer l'apprentissage implicite, donc en effectuant un traitement épiphonologique sur des unités larges, puis il va passer à un traitement métaphonologique et il va devenir capable de repérer des unités. Oui, je suis désolée, sur mon écran, c'est pas comme ça. Donc il y a seulement écrit traitement épi et méta. Il va passer progressivement d'un traitement épiphonologique à un traitement métaphonologique. Il va devenir capable de repérer des unités et de les extraire. Et il va être capable, sous l'effet de l'instruction, il va être capable après de repérer des phonèmes. Donc il va passer des unités larges à des unités qu'on appelle réduites. Donc, quelques exemples de tâches classiquement présentées. Si l'enfant, dans des traitements épiphonologiques, il est capable de détecter des intrus phonologiques, d'effectuer des jugements de similarité, puis il devient capable d'extraire des unités, et enfin, il est capable de manipuler des phonèmes, c'est-à-dire de les supprimer, de les inverser. Donc là, il a développé un très bon niveau d'habileté phonologique dès lors qu'il va être capable de manipuler des phonèmes. Donc la base de connaissances phonologiques, elle se construit grâce à un traitement épiphonologique, grâce à un traitement métaphonologique. Ce traitement métaphonologique, il est fortement stimulé par l'instruction au CP, lorsque l'on apprend à l'enfant les correspondances graphèmes-phonèmes. On va stimuler fortement le traitement métaphonologique concernant le phonème. Mais auparavant, vous voyez que le traitement métaphonologique qui concerne cette unité particulière, le phonème qui est essentiel, repose sur un ensemble de connaissances qui ont été acquises de façon implicite avant l'instruction formelle et repose sur d'autres types de traitements, un traitement épiphonologique et sur l'utilisation d'autres unités, syllabes, ou infrasyllabes. Ce que la recherche a montré également récemment, c'est que la base de connaissances phonologiques est fortement affectée par le niveau ce qu'on pourrait appeler le niveau de vocabulaire, niveau de connaissances lexicales de l'enfant. Plus la base de connaissances phonologiques est riche grâce à un capital de mots important, plus l'enfant va manipuler ses mots, va avoir l'occasion d'exercer ses opérations mentales sur des mots différents. Et donc, ces habiletés phonologiques vont être d'autant plus... son stock phonologique va être d'autant plus important. Donc, lorsqu'il s'agit d'aider l'enfant, vous voyez qu'on va pouvoir l'aider à plusieurs niveaux. On peut l'aider à construire sa base de connaissances phonologiques. On peut l'aider à effectuer un traitement épiphonologique dès l'école maternelle. Et ça, les enseignants le savent beaucoup plus. Au CP, on aide l'enfant à effectuer un traitement métaphonologique. Mais les aides, on peut les situer à d'autres moments. Alors, on a beaucoup de travaux qui portent sur la phonologie. J'y ai accordé un point important. Mais il existe d'autres capacités pour analyser les mots. On peut analyser des mots autrement qu'en utilisant le phonème. On peut analyser les mots en d'autres unités de sens, les morphèmes. Alors, je viens de vous montrer que lorsque l'on lit, on utilise un code graphophonologique. Par exemple, le mot chaton, on peut le décomposer donc en unités graphophonologiques. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Mais on peut également utiliser un code orthographico-morphologique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mot chaton, on va pouvoir le décomposer par sa racine chat et par son diminutif. On, avec la marque du pluriel, les petits du chien. Donc il existe également une autre possibilité pour l'enfant qu'il ne faut pas négliger, une autre possibilité pour repérer les mots. Il faut que l'enfant apprenne également que les mots sont décomposables en unités de sens, les morphèmes. Alors la littérature est récente sur le domaine. Karine Royer, qui est ici présente, y a contribué, puisque, je l'ai signalé ici, sa thèse porte sur les connaissances morphologiques chez le jeune enfant, des travaux très intéressants qui ont été réalisés, qui ont été initiés par Jean-Émile Bombert, Pascal Collet, et donc avec Karine et Nathalie Marek, qui ont fait leur thèse sur ce thème. Donc c'est des travaux tout récents en français, qui ont permis de montrer qu'il existe une sensibilité précoce à la morphologie. Comment on peut le montrer, une sensibilité précoce à la morphologie? Tout simplement, si on présente des tâches de plausibilité lexicale, tâches à l'oral, dès le CP ou en CE1, les enfants sont capables de dire lequel de ces deux mots ressemble le plus à un mot. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun mot. Ressaver, racever, décotir, doquetir, prédafé, pradefé, il n'y a pas de mots. La tâche pour l'enfant, on lui dit, je vais te dire deux mots, tu vas me dire celui qui ressemble le plus à un mot, qui pourrait être un mot. Les enfants, dès le CP, répondent de façon plus massive que ressaver, ça ressemble plus à un mot que racever, ou que beaver, ça ressemble plus à un mot que verib.
Pas du tout l'écriture.
Non, à l'oral.
Uniquement
oral. Oui, c'est des tâches à l'oral. Plausibilité lexicale à l'oral. Alors, c'est des travaux tout à fait intéressants qui portent sur un point que, pour l'instant, la recherche avait négligé. C'est l'importance des connaissances morphologiques précoces, parce que pendant longtemps, on a pensé que les connaissances morphologiques, elles intervenaient très tardivement dans l'apprentissage de la lecture, que la construction des connaissances morphologiques était relativement tardive. Et donc, c'est cet ensemble de travaux. Alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'il y avait des travaux anglo-saxons. Et grâce à la thèse de Karine et à la thèse de Nathalie Marek, on a montré qu'effectivement, il y avait du traitement morphologique précoce. Donc, ce que montrent les travaux récents, c'est que la possibilité d'identifier consciemment les phonèmes, elle est tardive, mais il y a une sensibilité précoce à la morphologie. C'est-à-dire que ce que l'on a montré pour la phonologie, cette sensibilité précoce à la phonologie, on est en train aujourd'hui de le montrer pour la morphologie. C'est-à-dire que dès l'enfant, quand il arrive au CP, finalement, ce que l'on est en train de voir, c'est qu'il possède déjà des connaissances morphologiques. Alors certes, la détection consciente d'un phonème, est tardive, mais auparavant, il existe une capacité qu'on pourrait appeler épimorphologique. Donc, apprendre à lire, finalement, ça pourrait permettre aussi de développer une identification consciente des morphèmes qui s'appuierait sur une connaissance implicite, non consciente, des morphèmes. Alors, si on propose toujours à l'oral une tâche de détection de l'intrus, si on explique le principe de dérivation en donnant des exemples à l'enfant, on lui donne plusieurs exemples et il doit trouver les intrus. Les scores sont tout à fait intéressants, c'est-à-dire que les enfants sont capables, dès le CP-CE1, de repérer des intrus. Si on présente défaire, démonter, dévorer, donc deux préfixés et un pseudo-préfixé, l'enfant va repérer l'intrus. Donc de la même façon qu'on a fait des tâches d'intrus phonologiques, on peut proposer, avant que l'enfant sache lire, des tâches, on est à l'oral hein, ici, des tâches d'intrus morphologiques. Incomplet, inconnu, interdit, il faut trouver l'intrus. Même chose sur les suffixés, menteur, danseur, couleur, vitesse, tristesse, caresse. Et les enfants se révèlent tout à fait compétents à repérer, de façon implicite, sans avoir une conscience du morphème, de repérer les intrus. Et enfin, le dernier point, c'est que la structure morphologique va affecter la lecture. Alors maintenant, si on est en lecture, ça c'est un travail de Nathalie Marek-Breton, dans une tâche de lecture à voix haute de mots et de pseudo-mots, où on enregistre des temps de lecture et des réponses correctes de lecture. Lorsqu'elle présente des mots préfixés comme décoller, des mots pseudo-préfixés comme dévorer, des pseudomots par préfixation comme décuire et des pseudomots pseudo-préfixés comme déconvire, elle va mettre en évidence des différences qui... des différences sur la lecture, cette fois on est en lecture, des différences à la fois sur les temps de lecture et sur les réponses correctes avaient en faveur d'un traitement du morphème, c'est-à-dire que par exemple décuire est lu plus rapidement et avec un taux d'erreur moins important que déconvire, et décoller est lu plus rapidement avec un taux d'erreur moins important que dévorer. Alors c'est un travail tout à fait intéressant avec un contrôle de... ça je passe là-dessus, de l'ensemble du matériel. Donc ce que l'on vient de voir finalement, c'est qu'il existe des connaissances morphologiques implicites, et qu'il y a une connaissance morphologique implicite qui va permettre à l'enfant de lire et qui va jouer un rôle sur l'utilisation plus tardive du code orthographico-morphologique. Et enfin, le dernier point, je vais m'arrêter ici avant de passer la parole à Jean Eckel. La troisième connaissance implicite dont je vous ai parlé, c'est les connaissances orthographiques implicites. Alors, je n'avais pas beaucoup parlé parce que je pensais que Michel Fayol en parlerait un peu, mais vous allez...
Michel Fayol, moi, je fais la remplacement.
Ah, d'accord. Donc, j'ai juste une diapo, parce que je ne savais pas trop, parce que je sais qu'en principe, on se met d'accord, parce qu'on intervient souvent avec Michel, mais bon...
On n'a pas su ce qu'il allait faire.
Ok, donc je ne sais pas s'il avait prévu, finalement. Alors, des connaissances orthographiques implicites, de la même façon, ce que... Donc, ça, c'est l'équipe de Michel Fayol avec Sébastien Pacton, qui est un doctorant, maintenant un maître de conférence... de Michel Fayol, qui a montré de la même façon des connaissances orthographiques implicites, un travail tout à fait intéressant, c'est-à-dire que avant qu'on ait appris explicitement à l'enfant le code orthographique, l'enfant très tôt va extraire des régularités orthographiques. Par exemple, les enfants de CP, ils vont utiliser, ils savent que le graphème EAU, EO, est plus utilisé en position finale qu'en position initiale. C'est conforme aux régularités de la langue. Alors là aussi, on va retrouver, toujours à l'oral, des tâches de plausibilité lexicale. Donc, dans des tâches de plausibilité lexicale, alors la tâche de plausibilité lexicale, je l'ai évoquée tout à l'heure pour la morphologie, on présente deux pseudomots à l'oral et l'enfant doit dire celui qui ressemble le plus au mot. Et l'enfant doit rejeter le... l'enfant doit dire celui qui est le plus proche du mot. Alors, le travail a été fait à l'écrit dans certains travaux, et puis il y a des travaux à l'oral, avec des plus jeunes enfants, en maternelle, me semble-t-il. Mais c'est pas Pacton qui les a développés, c'est ça que tu es en train de me dire. D'accord. Les travaux de Pacton ont été effectués avec des enfants de CP jusqu'au CM, à l'écrit, et puis il y a des travaux à l'oral, mais pas par Pacton, qui montrent donc une sensibilité orthographique précoce. On retrouve le même choix préférentiel avec des pairs comme ULAT, UJAT. ULAT est préféré à UJAT parce que le doublé 2L est fréquent en français, alors qu'il ne l'est pas, les deux J non. Même chose ici, de U, de K. Donc l'enfant a construit finalement des connaissances tout à fait implicites. Personne ne lui a jamais enseigné ces connaissances, mais il s'est construit au fur et à mesure de ses contacts avec l'écrit un ensemble de connaissances. Ça veut dire, je terminerai là-dessus, le bain d'écrit ne permet pas à l'enfant d'apprendre le principe alphabétique et ne lui permettra jamais d'apprendre à lire. Le bain d'écrit est toutefois fondamental pour que l'enfant développe des connaissances implicites. Le bain d'écrit est fondamental, et vous allez le voir, Jean Eckel va vous parler du rôle de l'environnement. L'environnement va jouer un rôle important dans la construction de ces connaissances implicites qui sont fondamentales. Voilà, je vous remercie, je passe la parole à Jean Eckel. Pardon, on voit. Excusez-vous.
Ça, je l'ai pas éteint.
Dans une poche.
Dans la poche.
Voilà. Ah, c'est pas une poche. Non. Voilà, et puis ce qu'il ne faut pas, c'est que le micro touche le truc.
Bien, bonjour. Je voudrais terminer donc cette présentation, à la fois terminer donc sur les connaissances orthographiques et en particulier insister sur le poids de l'environnement. Vous verrez que le poids de l'environnement, et l'environnement a joué un rôle bien sûr, mais un rôle qu'il faut un peu modérer en quelque sorte. Mais je vais y revenir. Alors, donc l'enfant commence à acquérir implicitement, donc on l'a dit, des connaissances sur les caractéristiques structurales de l'écrit. En particulier, on travaille pas seulement sur les séquences de lettres, mais aussi sur la façon dont les mots sont composés. On sait que le jeune enfant de moyenne section, grande section, est capable déjà de repérer la structure, les configurations en quelque sorte qu'on appelle intrafigurales d'un mot. Hein, le fait, par exemple, qu'un mot est composé de séquences graphiques différentes, même si l'enfant ne connaît pas toutes les lettres. Donc ça, c'est un certain nombre de travaux. Et que ces connaissances implicites sont sans doute impliquées à la fois dans des comportements de prélecteur, de préécriture. Et ici, on fait évidemment référence à des observations de Ferrero qui ont été reprises de façon expérimentale et beaucoup plus solide expérimentalement depuis. Hein, bien sûr, Ferrero a ouvert la voie avec un cadre théorique maintenant largement dépassé, mais expérimentalement, ça a été repris en particulier par Treiman en anglais avec des travaux toujours depuis 1993 jusqu'à 2006 où elle continue à publier de remarquables recherches sur ce thème-là. Donc des connaissances orthographiques très précoces, et on peut imaginer que ces connaissances orthographiques précoces de nature implicite constituent un socle sur lequel va se bâtir des connaissances orthographiques plus explicites, je veux dire des connaissances qui vont être enseignées à partir du code alphabétique et du code orthographique, bien sûr. Alors, ça a été dit, et quelques mots pour revenir sur ce qu'on appelle apprentissage implicite explicite. L'apprentissage implicite renvoie à un comportement adapté s'ajustant aux propriétés statistiques de l'environnement. Si vous voulez, l'idée d'apprentissage implicite, c'est pas seulement par opposition à ce qui serait un enseignement formel ou à des séquences d'enseignement sur tel ou tel aspect, par exemple de l'écrit, mais c'est aussi le fait, l'apprentissage implicite, que l'enfant est capable d'extraire des régularités. Donc il va être capable d'extraire des régularités au niveau, on l'a dit, de la langue orale, que des mots se ressemblent ou se distinguent, au niveau du langage écrit, que des séquences de lettres sont possibles ou impossibles dans une langue. Donc on est vraiment ici sur, en quelque sorte, un traitement de type statistique que l'enfant peut faire. On parle aussi d'un apprentissage implicite de nature probabiliste. L'enfant sait qu'il y a des lettres qui ont plus de chances d'être ensemble que d'autres lettres. Bien, donc l'apprentissage, j'ai anticipé, du langage écrit nécessite le repérage de régularités spécifiques à l'oral, à l'écrit, et sans qu'il y ait verbalisation, je veux dire, de règles. Hein. L'enfant peut saisir, et ça c'est des travaux qui ont été développés dans les années 67-68 sur ce qu'on appelait les grammaires artificielles chez l'adulte, et ça a été, je l'ai dit, développé depuis en développement. Apprentissage donc implicite, apprentissage explicite doivent être pensés en termes de complémentarité. Hein, et l'idée qui prédomine actuellement, c'est que l'enfant a, avant l'enseignement formel, a tout un socle de connaissances de nature implicite sur lesquelles ces connaissances implicites sur lesquelles va s'ancrer, va se développer des connaissances explicites. Alors j'aime bien cette citation, parce que c'en est une à quelques mots près, reprise dans une synthèse de Perruchet et Pacton. Il est impossible d'apprendre sans attention. Évidemment, il faut que le système cognitif soit capable de repérer des éléments dans son environnement, mais il est possible d'apprendre sans avoir l'intention de le faire. Et on le sait, nous apprenons des choses sans que nous ayons l'intention de le faire. Par exemple, en musique, on est capable de dire si un morceau musical se termine de façon convenable ou conventionnellement établi dans notre société, dans la façon dont on traite les sons de musique et comment une phrase musicale se termine, par exemple. Voilà, donc un peu pour reprendre cette idée d'un apprentissage sous forme intentionnelle, programmé par un instructeur. On a un apprentissage ici de nature explicite, sous forme non intentionnelle, mais avec attention. sans aucune intervention extérieure, repérer, en quelque sorte, je l'ai dit, des régularités, des séquences qui sont possibles ou impossibles ou rares dans son environnement. Alors, pour reprendre sur la lecture, donc l'apprentissage de la lecture, c'est le résultat de connaissances explicites, directement issues de l'enseignement, et implicites qui ne sont pas enseignées. Et là se constitue un véritable défi. Je m'adresse aux enseignants ici, c'est que les connaissances enseignées sont filtrées par l'état du système cognitif de l'enfant. Quand je dis un défi, parce que le défi, c'est de pouvoir tenir compte, on le sait, des différences inter-individuelles. Et les connaissances, la prise en compte de la variabilité inter-individuelle, c'est un enjeu, c'est un défi pédagogique immense. Mais ces différences inter-individuelles, lorsque l'enfant arrive au cours préparatoire, ce sont des différences inter-individuelles essentiellement sur la nature et le volume des connaissances implicites que l'enfant peut avoir sur la langue orale, sur la langue écrite. Quelques mots, je ne sais pas quel est le temps qui nous reste compte tenu des... quelques mots sur les procédures de reconnaissance des mots écrits et en particulier sur ce qu'on appelle la voie directe et la voie indirecte. La connaissance du code orthographique, c'est-à-dire savoir traiter rapidement en quelque sorte des unités, des séquences de lettres dans un mot, et sans les décoder, sans passer par un processus de conversion graphème-phonème, c'est ce qu'on va appeler plutôt l'utilisation de la voie directe, je vais y revenir, par des schémas. Et la connaissance du code graphophonologique, c'est-à-dire la capacité à transcrire des séquences de lettres en séquences de graphèmes, c'est ce qu'on va appeler la voie indirecte, la voie non lexicale ou la voie phonologique. Il y a aussi évidemment le code graphomorphologique dont on vous a parlé précédemment. Alors, les deux procédures de lecture, je vous propose ce schéma très, très général que vous connaissez peut-être déjà. C'est-à-dire qu'on va distinguer dans le traitement d'un mot écrit, quand on parle de deux procédures de lecture, bien sûr, c'est la composante spécifique à la lecture, c'est-à-dire l'identification de mots écrits. Le traitement d'un mot écrit nécessite l'analyse visuelle du stimulus. Et puis, on va distinguer donc une procédure analytique, le décodage, d'une procédure lexicale, en particulier le traitement direct du mot. Alors, soit ce mot écrit, en quelque sorte, est déjà disponible dans le lexique orthographique du sujet et du lecteur, et il va connecter à cette séquence de mots écrits que son système visuel traite, une séquence de lettres présente dans son lexique orthographique, et dans ce lexique orthographique, est connecté. En général, on se base sur ce triptyque de représentations, c'est-à-dire des représentations de nature orthographique, des représentations de nature phonologique et des représentations de nature sémantique. Autrement dit, à une séquence de lettres correspond, si c'est un mot connu du lecteur, une séquence phonologique, un pattern phonologique et le sens de ce terme. Ici, c'est mémoire à court terme. Ce qui signifie que lorsque le mot écrit est traité, s'il est disponible dans le lexique orthographique, par la voie directe, par cette procédure lexicale qui connecte automatiquement, il y a une activation automatique dans les premières dizaines de millisecondes, ensuite, cette séquence de lettres, avec en particulier le pattern phonologique, est stockée de façon très provisoire dans une mémoire tampon, en particulier la mémoire à court terme, qui va permettre l'oralisation du mot. Si le mot n'est pas disponible, ou si la séquence de lettres n'est pas disponible, le stimulus va donner lieu à une segmentation, va donner lieu à un système de conversion graphophonologique, évidemment si le sujet, en particulier ici si l'enfant, est capable de l'utiliser, ce système de conversion, c'est-à-dire s'il connaît le code alphabétique et le système de conversion. Ensuite, il procède à une synthèse, et enfin, il stocke dans la mémoire et il produit le mot. Donc, autrement dit, ici, on va avoir tout ce qui concerne la lecture de mots déjà connus, et ici, tout ce qui concerne la lecture de mots inconnus, que ce soit les pseudomots ou que ce soit des mots du lexique, mais qui ne sont pas déjà stockés. Et on voit évidemment l'idée fondamentale qu'il faut passer par le code pour les enfants, tout simplement pour les rendre autonomes pour lire. C'est une évidence, mais j'aime la rappeler. Donc, très rapidement, la lecture de mots, la lecture par exemple de mots irréguliers, le mot chapeau, il peut donner lieu directement donc, au traitement du stimulus avec, je l'ai dit, le pattern phonologique, ou bien il peut procéder par un découpage, soit de nature graphophonémique, mais ce que l'on a mis en évidence, est-ce que les francophones, pas seulement, mais aussi les espagnols, dans les travaux, c'est que la procédure analytique est plutôt une procédure de type syllabique. Donc je parle du traitement syllabique, je ne parle pas de la méthode syllabique qui fera peut-être l'objet tout à l'heure d'une intervention. Donc je parle du traitement syllabique, c'est-à-dire que il est coûteux de faire cette séparation. C'est le en revanche, ce que les travaux ont mis en évidence depuis une dizaine d'années en français, c'est que très très rapidement, l'enfant, l'apprenti lecteur dès le CP va s'appuyer sur des unités de type syllabique pour opérer cette procédure analytique, pour mettre en œuvre la procédure de décodage phonologique. Il y a plein d'arguments qui vont dans ce sens. Lecture, pour par exemple la lecture d'un mot irrégulier, si, j'allais dire, par un attachement procédural, je veux dire par là, l'enfant continue à utiliser sa capacité à décoder les mots, eh bien on peut voici ce mot, eh bien il va le lire éventuellement chaos, et là il y a un conflit, en quelque sorte il y aura un conflit entre une procédure analytique qui produirait cette séquence chaos, et puis on le sait, nous, eh bien, c'est le mot chaos, hein, avec donc, c'est un mot irrégulier dans la mesure où les transcriptions graphème-phonème sont hautement irrégulières, hein, sont hautement inconsistantes. Voilà, même chose pour la lecture de pseudomots. Comment l'enfant apprend-il à lire ? Donc, sous l'effet de l'enseignement, on lui fait comprendre, il identifie, pardon, des unités, on lui fait comprendre des règles, on l'exerce à l'application de ces règles, et fondamental, ensuite, il y a mise en œuvre d'une automatisation. L'automatisation des procédures est essentielle pour, en quelque sorte, désengager le système cognitif, pour ensuite être disponible pour mettre en œuvre les processus de compréhension. Les procédures de lecture doivent être hautement automatisées pour que le système soit disponible à faire des traitements de plus haut niveau. Je passe très rapidement pour consacrer quelques minutes au rôle de l'environnement. Alors, sur l'environnement, on sait qu'évidemment la construction des connaissances implicites et sous la dépendance et du système cognitif, c'est-à-dire la façon dont un système, l'architecture en quelque sorte, ou on pourrait le dire autrement, les différentes composantes cognitives, mémoire, qu'elles soient à court terme, à long terme, les capacités attentionnelles, etc., et l'environnement. Je l'ai dit, le développement des connaissances implicites, s'opère ce développement par le fait que le sujet traite des informations dans son environnement. Donc on voit bien que si cet environnement est riche, alors on peut imaginer que le sujet va pouvoir extraire plus facilement des régularités dans son environnement. Alors, importance, il faut évidemment souligner ici, ce qui a déjà été maintes fois dit, l'importance du contexte éducatif avec la présence d'écrit, je vais encore en dire quelques mots, et l'importance des interactions autour de l'écrit. Importance des interactions autour de l'écrit. Et lorsqu'on parle des interactions autour de l'écrit, on peut faire référence, bien sûr, mais pas seulement, mais aux pratiques de lecture. Alors, quelques mots sur les pratiques de lecture familiale. Il y a une littérature abondante sur ce thème-là, littérature anglophone, certes, mais abondante. La lecture partagée d'histoire, qui est une routine, c'est un élément essentiel dans la vie de l'enfant à l'acquisition du langage oral. Et il y a des superbes travaux d'une collègue canadienne, anglophone et francophone, Monique Sénéchal, sur le développement du vocabulaire, le poids en quelque sorte de ces moments de lecture partagée dans l'acquisition du langage oral et dans le développement du vocabulaire. On peut aussi imaginer que cette lecture partagée favorise la prise de conscience de conventions régissant l'écrit. On sait que, par exemple, il y a des formes syntaxiques qui sont propres à l'écrit, qui sont plus complexes qu'à l'oral. On sait que la façon dont on s'exprime n'a pas toujours la même structure syntaxique que l'écrit. Donc, évidemment, la lecture partagée d'histoires, le fait de lire des histoires aux enfants est important. Toutefois, il faut être attentif au fait que ces interactions sont limitées pour expliquer l'acquisition de l'écrit. C'est-à-dire, évidemment, c'est important. On peut aussi imaginer que c'est important pour des aspects motivationnels, pour le fait que l'enfant entre aussi par cette médiation, en quelque sorte, dans le monde de l'écrit que les adultes autour de lui peuvent partager. Mais, par exemple, vous voyez que finalement, dans une étude déjà un peu ancienne, les auteurs notaient que un peu plus de 3% des commentaires formulés par les partenaires concernent l'écrit. Quand je dis concerne l'écrit, concerne par exemple la structure de l'écrit ou des choses comme ça. Alors que finalement, elle a un pourcentage beaucoup plus important, 85% concerne le contenu narratif. On ne voit pas trop comment partager ou échanger sur le contenu narratif pourrait favoriser l'apprentissage de la lecture. Donc, il faut rester prudent sur cette idée-là, sur le fait que la lecture partagée d'histoire favoriserait l'apprentissage de la lecture-écriture. D'autres observations montrent que la répétition de lecture partagée, donc vous ferez ce qu'il faut, de lecture partagée autour des mêmes livres, modifierait progressivement les interactions. En particulier, il a été observé que ces interactions portent d'abord sur les illustrations. On a plutôt tendance, les parents, les adultes ont plutôt tendance d'abord à parler des images, sur le sens, sur la façon dont l'écrit, dont le récit s'organise, les personnages, et puis un peu plus sur l'écrit. Autrement dit, répéter la lecture de même livre pourrait contribuer en quelque sorte à partager des choses plus centrées sur l'écrit, sur le fonctionnement de l'écrit. Alors, un point qui nous semble très important, c'est une première étude de ces auteurs qui ont montré que les échanges sur l'écrit sont beaucoup plus importants lors de la lecture d'abécédaires. Ça pourrait paraître évident. Mais c'est un point qui nous semble très important de souligner ici, le fait que les abécédaires, évidemment, et je sais qu'il en existe de différentes natures pour les jeunes enfants, mais la lecture partagée autour d'abécédaires, évidemment, favorise ou pourrait favoriser des échanges autour de l'écrit, du fonctionnement de l'écrit, de la structure de l'écrit. Alors, on fait toujours référence à cette étude de Scarborough et Dobridge de 1994, où, après une analyse statistique, peut-être un peu sophistiquée, mais qui montre que la lecture d'histoire en compte un peu plus. C'est un peu plus de 8% de la variance en vocabulaire et en lecture. Alors, pour certains, c'est de dire que c'est 8% de la variance, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que, si vous voulez, l'idée, c'est que... à hauteur de 8% des différences interindividuelles qu'on peut observer en vocabulaire et en lecture sont expliquées par le nombre de lectures d'histoire, en quelque sorte. Bon, c'est un pourcentage relativement faible. Pour d'autres, c'est de dire ben, c'est déjà pas mal. Hein, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et je reviens sur cette idée renforcée ici, c'est que finalement, ces auteurs montrent que la lecture d'abécédaires favorise le développement des connaissances sur les lettres, et sur le fonctionnement de l'écrit. Hein, lire des abécédaires aux jeunes enfants favoriserait en quelque sorte la prise de conscience des lettres, éventuellement la prise de conscience des relations entre les lettres et des sons de l'oral. Donc dans des synthèses beaucoup plus récentes, vous voyez par exemple une dernière qu'on a pu consulter, c'est que la lecture partagée de livres est associée au développement du langage oral, c'est ce qu'avait montré Sénéchal. Hein. Véritablement, là, ça participe au développement du vocabulaire, notamment, mais trois auteurs le soulignent, mais pas au développement du langage écrit. Donc tout à l'heure, 8% de variance, et là, on dit pas au développement du langage écrit. Je crois que c'est des auteurs qui disent que bon, ben, la lecture partagée d'histoire est importante, mais elle ne contribue pas significativement à apprendre à lire. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. En conclusion, la lecture conjointe de livres ne constitue pas un prédicteur puissant de la réussite en lecture, probablement parce que l'apprentissage de la lecture est directement dépendant de la connaissance des lettres, des habiletés phonologiques qui ne sont pas développées lors de la lecture d'histoire, tout simplement. Quoi qu'il en soit, lire des histoires reste une activité essentielle. On l'a dit pour le vocabulaire, là ça a été clairement démontré. Sur la connaissance, sur les connaissances, sur les structures des récits, la façon dont les récits sont structurés, s'organisent autour des personnages, ce qui se passe, comment les personnages gèrent une histoire, comment une histoire est introduite, comment elle est complexifiée, comment elle se résout par la suite, et puis des connaissances sur le monde, des conventions du langage écrit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'exposition à l'écrit, en tout cas pour ce qui concerne notre domaine de recherche? Je voudrais d'abord faire rapidement la remarque, ou partager la remarque avec d'autres chercheurs sur le fait que lorsqu'on s'intéresse aux interactions autour de l'écrit, soit on demande aux parents, on leur propose un questionnaire, où on fait des enquêtes, on leur dit ben, combien de fois vous allez à la bibliothèque, ou bien combien de fois est-ce que vous achetez souvent un livre à votre enfant. Évidemment, on a affaire ici à des biais de désirabilité sociale. Il est bien pour une maman, pour un papa, de dire « je vais souvent à la bibliothèque avec mon enfant, je lui achète souvent un livre, etc. » Bien, donc il y a un biais important. Alors, ce qui a amené les chercheurs à s'intéresser à l'exposition à l'écrit et à essayer de... L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'environnement à partir des connaissances des écrits environnementaux. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'interroger directement soit les adultes, soit les enfants, mais sur leurs connaissances, sur des écrits environnementaux, soit à partir de titres de livres, soit à partir de noms d'auteurs, ou bien de magazines destinés à la jeunesse. Voilà, donc on va présenter une liste de livres, des magazines, des noms d'auteurs, pour évaluer l'exposition à l'écrit. Hein, et là, on va accéder directement, en quelque sorte. Hein, c'est une mesure, quand je dis on accède directement auprès de l'enfant, sans passer par un questionnaire, mais on a une mesure indirecte de l'exposition à l'écrit, bien sûr, parce qu'on ne sait pas, on n'observe pas l'enfant dans ses différentes interactions ou manipulations des écrits. Alors, la question sur laquelle se sont attachés, enfin, que Cunningham et Stanovich ont développé, c'est: est-ce que cette exposition à l'écrit a un poids sur le développement des connaissances orthographiques? La réponse évidente serait de dire oui, encore faut-il le démontrer. Voilà, par exemple, on travaille nous aussi sur ce thème là depuis quelques années. Voilà comment on procède, hein. Par exemple, à partir d'un titre, soit on propose des cibles. Donc ici, l'enfant doit entourer le livre quand on lui dit le petit chaperon rouge. Et là, il doit rayer le titre, puisque c'est un leurre. Hein, c'est un titre leurre, puisque le roi de mots fous, c'est le roi de mots, le prince de mots tordus, quelque chose comme ça, qui a été modifié. Hein. Donc l'idée, c'est que si l'enfant a des connaissances précises sur l'écrit, alors il doit récupérer précisément le titre du livre et écarter les leurres qui sont introduits dans la liste. Voilà comment on évalue l'exposition à l'écrit avec des titres, des auteurs, après une pré-enquête, etc. Alors, ce que Stanovich et Cunningham ont montré, c'est que dès le CP, les performances en lecture de mots sont expliquées par les habiletés phonologiques. C'est une évidence, mais surtout qu'une fois que les habiletés phonologiques étaient introduites pour expliquer les performances en lecture de mots, on pouvait encore expliquer les performances en lecture par l'exposition à l'écrit. Les habiletés phonologiques expliquent les performances en lecture normales, mais après, en introduisant après coup l'exposition à l'écrit, on peut encore expliquer les performances en lecture. À nouveau, toujours d'après ces auteurs, les performances en compréhension en CM2, donc là on est en compréhension de lecture, en CM2 sont expliquées par les performances en compréhension en CE2, qu'ils avaient donc examiné 2 ans auparavant, mais une fois qu'ils ont expliqué, qu'ils ont entré ceci dans l'équation, eh bien ils peuvent à nouveau, en introduisant l'exposition à l'écrit après, rendre compte encore d'une part de variance par en particulier, donc une exposition à l'écrit évaluée uniquement sur les titres. L'exposition à l'écrit joue un rôle important dans le développement non des connaissances orthographiques, mais dans la lecture. Alors, un point important, c'est que Stanovich avait parlé d'effet Mathieu, c'est-à-dire comment les riches deviennent plus riches, en faisant référence à un écrit biblique. Lorsque l'enfant commence à savoir lire, il lit plus, et plus il lit, plus ses compétences en lecture sont stimulées. Son niveau de vocabulaire augmente, ses connaissances sur le monde se développent plus, etc., etc. On a un effet de stimulation, comme ça, de renforcement. Et inversement, pour les faibles lecteurs, s'ils ont des difficultés pour apprendre, pour lire, eh bien ils vont lire moins, leurs connaissances sur le monde se développent moins, leur vocabulaire se développe moins, etc. Bref, donc finalement, l'enjeu à nouveau, c'est que l'enfant, le plus précocement possible, je dis bien le plus précocement possible, puisse devenir autonome. Et évidemment, s'il lit aisément, on peut imaginer qu'il prendra plaisir à lire, ou en tout cas qu'il pourra développer rapidement des connaissances plus générales par la lecture. Alors, faut-il plonger l'enfant dans un bain d'écrit ? Je l'ai dit, la lecture d'histoire ne constitue pas elle seule une condition suffisante, mais évidemment, il faut proposer des activités langagières, et ça très précocement, sur le développement des habiletés phonologiques, sur le repérage de la morphologie, ça a été dit, sur des activités d'écriture spontanée. Je crois que c'est très important de mettre l'enfant en situation d'écrire très très tôt, et sans pour cela évidemment le renvoyer à de l'orthographe conventionnelle, mais le mettre en situation d'écrire, ça c'est quelque chose qui nous semble essentiel. Voilà. La prévention aussi, c'est passer par l'outil informatisé, mais ça sera pour une autre conférence. Alors en conclusion, apprendre à lire, ce n'est pas un acte naturel. Il y a nécessité d'enseigner le code. Le code est nécessaire au développement des processus d'identification de mots écrits. Et ces processus doivent être hautement automatisés. Les processus de compréhension à l'écrit, sous réserve que les processus de compréhension à l'oral soient préservés, eh bien, ces processus de compréhension à l'écrit ne peuvent être mis en œuvre sans l'identification rapide automatique des mots écrits. Les connaissances implicites, socle sur lequel vont s'appuyer les connaissances explicites. Ces connaissances implicites dépendent en partie de l'environnement, dépendent en partie des interactions dans l'environnement, dépendent de la qualité des interactions. Je n'ai pas le temps de vous le présenter, mais il y a des travaux assez récents qui sont intéressés à la qualité des échanges que les auteurs appelaient socio-émotionnels hein, dans les échanges mère-enfant, qui sont tout à fait intéressants. Mais donc évidemment, même les psychologues cognitivistes s'intéressent à la cognition chaude, c'est-à-dire aux émotions qui sont partagées ou qui sont activées pendant différentes tâches. Et l'intégration des connaissances sous l'effet de l'enseignement, je l'ai déjà dit, donc est dépendante des connaissances implicites et disponibles. Je reviens sur cet enjeu très important pour les enseignants, c'est de prendre en compte ces différences interindividuelles pour justement aller coller au plus près des potentialités des enfants. Et je vous remercie.